Affaires étrangères, Christine Ockrent, France Culture, en partenariat avec le magazine Courrier International.
Bonjour à tous. C'est un colosse au pied d'argile, le pays le plus peuplé d'Afrique, qui se rend aujourd'hui aux urnes pour choisir son nouveau président. Le Nigeria réunit à lui seul contradictions et embardées à l'échelle du continent. La première économie d'Afrique est pourtant le taux de pauvreté le plus élevé du monde. Une jeunesse gonflée par une démographie galopante, une économie riche en pétrole mais qui n'arrive pas à suivre, des régions entières en pleine insécurité, des institutions démocratiques dévoyées par une corruption qui semble irrépressible, un milieu d'affaires puissant et un foisonnement culturel et créatif incomparable. Comment cette élection présidentielle d'aujourd'hui peut-elle infléchir l'évolution d'un pays aussi tumultueux ? Quelques 73 candidats se présentent au suffrage, mais deux personnages se disputent le poste, dont le président sortant, Buhari. Jusqu'à quel point son adversaire, un riche homme d'affaires, incarne-t-il une solution de rechange ? Quel risque d'une déstabilisation accrue au nord-est avec la guérilla islamiste de Boko Haram, comme au centre où s'affrontent éleveurs et agriculteurs? Pourquoi le pétrole nigérian ne réussit-il pas à dynamiser l'économie? Comment juguler la croissance démographique d'un pays qui va passer le cap des 200 millions d'habitants cette année et qui nourrit les flux migratoires importants? Quel rôle enfin pour ce poids lourd anglophone dans la grande Afrique de l'Ouest francophone? C'est ce que nous allons explorer ce matin grâce à vous, Marc-Antoine Pérouse de Monclos. Bonjour, vous êtes directeur de recherche à l'Institut de recherche du développement. Merci d'être avec nous par téléphone. Avec nous, Laurent Bossard, vous dirigez le club du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest à l'OCDE. En duplex depuis Bordeaux, Laurent Fourchard, directeur de recherche à Sciences Po. Par téléphone, depuis le Qatar, Benjamin Auger, docteur en géographie et chercheur associé à l'IFRI. Et enfin, Élodie Appard, qui est directrice scientifique à l'Institut français en Afrique, à Ibadan, près de Lagos. Marc-Antoine Pérouse de Monclos, aidez-nous déjà à situer cet immense pays. Si je comprends bien, il va y avoir, donc aujourd'hui samedi, 84 millions d'électeurs qui vont se rendre aux urnes. Donc, dans des élections à la fois présidentielles, législatives et aussi au niveau des gouverneurs, dans ce qui est une démocratie, en fait, depuis 99, donc après un régime militaire, c'est ça?
Oui, disons que les Nigérians préfèrent parler de régime civil plutôt que de démocratie, ou bien en pidgin, on parle de democracy, disons de régime qui se dit démocratique, mais avec souvent des élections frauduleuses et une manière de faire du politique qui est souvent très mafieux. Donc démocratie est peut-être un bien grand mot, mais en tout cas, pas un régime de parti unique. Là, on voit deux gros candidats qui s'affrontent, qui sont des personnalités très différentes, bien que tous deux originaires du Nord et tous deux musulmans. L'un est en fait le président sortant, qui est un ancien militaire, qui a été dictateur en fait au milieu des années 80, à l'issue d'un coup d'État qu'il avait mené et qui a ensuite été élu triomphalement en 2015, en portant beaucoup d'espoir, qui en l'occurrence était déçu. Et face à lui, Atiku Abubakar, qui était un des fondateurs, un des principaux fondateurs en fait du PDP, qui était le parti au pouvoir à la fin de la dictature militaire en 99, et ce jusqu'à l'élection de Buhari en 2015. Et ces deux hommes apparaissent comme très différents dans leur parcours politique, et en même temps, chacun à leur manière, sont finalement issus du sérail et sont un pur produit du système politique nigérian.
Ce qui est frappant aussi, c'est leur âge. Donc, le président sortant, Buhari, a 76 ans, Abubakar, l'homme d'affaires, 72. Donc, c'est une même génération, et en fait, les représentants en fait, d'un même système.
Voilà, et dans un pays qui, parce que n'oublions pas, Atiku Abubakar est souvent présenté comme un homme d'affaires incarnant les intérêts du privé, mais enfin il a fait sa fortune en dirigeant les douanes à Lagos, donc en tant d'abord que fonctionnaire, hein, profitant des prébendes de l'État. Donc encore une fois, c'est des parcours différents, mais au final c'est quand même des produits du système. Et ce qui est intéressant, c'est que dans un pays qui, comme souvent, vu la pyramide des âges en Afrique, où les moins de 30 ans sont très très majoritaires, finalement, pour la première fois, le vote va peut-être se faire un petit peu aussi en fonction des vice-présidents qui, eux, sont plus jeunes et qui incarnent davantage d'espoir de changement qu'un président sortant malade, très âgé, et qui a d'ailleurs été souvent absent du pays pour se faire soigner.
On le surnomme Baba Goslow.
Voilà, le président, le vieux, qui avance très très lentement, le moins qu'on puisse dire, et qui n'a guère fait aboutir les réformes qu'il avait promis d'engager.
Et à un moment donné, il a même dû affirmer que c'était bien lui et non pas un clone qui apparaissait dans la campagne.
Alors, le Nigeria bruise de rumeurs, comme souvent en Afrique. Donc, effectivement, il y a des groupes dans le sud du Nigeria qui ont laissé passer la rumeur selon laquelle, en fait, Buhari était bien mort de maladie et que c'était un clone qu'il avait remplacé, qui serait originaire du Darfour soudanais. Enfin, il y a différentes versions. Et ce qui est intéressant dans ces histoires de rumeurs, c'est qu'aujourd'hui, vous avez une rumeur qui est aussi colportée par des gens proches du pouvoir qui laissent entendre que le grand rival Atiku Abubakar serait, lui, soutenu par la France, les États-Unis, la Grande-Bretagne et le Cameroun pour privatiser les entreprises publiques, notamment la Compagnie Nationale des Pétroles, au service des intérêts occidentaux. Donc ça renvoie à l'idée que Buhari incarnerait une forme de nationalisme paramilitaire face à Atiku Abubakar qui, lui, aurait un programme politique plus libéral et plus, disons, moins nationaliste, on va dire, plus global que celui de Buhari. Là aussi, beaucoup de rumeurs, évidemment.
Benjamin Auger, vous êtes maintenant basé à Doha, au Qatar, mais vous êtes un spécialiste du Nigeria, passionné, m'avez-vous dit, par la vie politique interne du Nigeria. Jusqu'à quel point est-ce que les deux candidats en présence présentent-ils des programmes ou offrent-ils en fait des versions contrastées de ce qu'ils pourraient faire si l'un était reconduit, donc le président sortant, ou si l'autre arrivait véritablement aux affaires?
Bah, Atiku Abubakar a fait un très long document de plusieurs centaines de pages pour expliquer ce qu'il allait faire. Le problème, c'est que la plupart des gens ne lisent absolument pas ce type de document, et la réalité de la campagne est en fait une campagne pour dénigrer l'autre candidat. Donc en gros, Atiku Abubakar a joué sur le fait
que ce n'est pas propre au Nigeria, on peut souligner ça en passant. Oui.
Pas du tout. En gros, Atiku Abubakar a beaucoup raillé le manque de décision économique du président Buhari, qui notamment a entraîné la récession en 2016. Et de l'autre côté, le camp de Buhari essaye de déstabiliser Atiku Abubakar en disant que la fortune qu'il a amassée ne s'est pas faite de façon tout à fait légale. Donc en gros, c'est une campagne plutôt pour dénigrer l'autre plutôt que pour proposer quelque chose de l'ordre d'une politique économique ou alors d'une grande politique.
Est-il vrai que le mot kleptocratie a été inventé à propos du Nigeria dans les années 60, à tel point qu'il y a maintenant dans Londres un kleptotour? Il paraît qu'on peut faire un kleptotour en autobus, où on se promène évidemment dans les quartiers chics de la capitale britannique, et où on a droit à l'énumération des propriétés appartenant à de richissimes Nigérians, dont une dame qui a été ministre du pétrole et qui, semble-t-il, a accumulé un pactole considérable.
Alors, l'enrichissement très rapide du Nigeria s'est fait à partir des années plutôt 70, donc ça correspond en fait à l'augmentation de la production et à l'augmentation des prix liés aux deux chocs pétroliers. Et en effet, une grande partie de l'élite a acheté beaucoup de maisons à Londres, et la personne à laquelle vous faites allusion, Alison Dizaine Madueke, est en effet une ministre qui a été extrêmement proche de l'ancien président Goodluck Jonathan et qui venait de la région pétrolière en question, et donc qui a fait profiter à une petite élite Ijo autour d'elle de très très importants contrats qui leur a permis de s'enrichir extrêmement vite. C'est un cas particulier parce que elle est traînée en justice, mais elle n'a toujours pas été jugée et n'est toujours pas emprisonnée. Qui fait partie des grands dossiers entre la Grande-Bretagne et le Nigeria actuellement.
Vous faisiez allusion à la récession qui a correspondu, en fait, si j'ai bien compris, à l'entrée en fonction du président sortant. Il faut dire que c'était en 2015 l'effondrement des prix du pétrole à l'échelle mondiale. Pourquoi est-ce que depuis, ce président-là n'a pas mené à bien les réformes qu'il avait promises, et notamment pour lutter contre la corruption?
Je pense qu'on part d'un manque de réforme de la justice. On a un vice-président qui est professeur de droit, qui a été ministre de la justice de l'État de Lagos, qui était tout à fait en capacité de faire avancer ce genre de dossier. Et vous avez un parquet financier qui s'appelle l'AIFCC, qui mène des enquêtes, qui interroge des gens. Mais quand les dossiers sont transmis à la justice, ça ne fonctionne pas parce que l'institution est totalement corrompue. À partir de ce moment-là, si les gens savent que s'ils volent au mieux ou plutôt au pire pour eux, ils vont devoir rendre l'argent mais qu'ils n'iront jamais en prison, ça n'aide pas à ce qu'un cercle si vertueux puisse se mettre en place. Le deuxième problème de Bouhari, pourquoi il n'a pas fait de réforme, c'est que il comprend pas en fait comment fonctionne la démocratie. Il a, dès le départ, dès qu'il est arrivé au pouvoir en mai 2015, fait en sorte de lancer une investigation contre le président du Sénat, qui était de son parti et qui n'était pas son choix d'homme. Et cela a entraîné le fait que l'institution n'a jamais travaillé main dans la main avec la présidence. Beaucoup de dossiers importants, y compris celui du pétrole et des réformes pétrolières sur lesquelles on reviendra peut-être plus tard, ont été bloqués par l'un ou par l'autre, par le président du Sénat ou par Bouhari, juste pour des questions purement politiciennes. Et du fait de son manque de sens politique, il a jamais réussi à faire un deal avec le président du Sénat pour justement faire en sorte d'avancer sur un certain nombre de dossiers très très importants. Donc on en revient à sa période 83-85, là où il était dictateur militaire. Si on la compare aux quatre dernières années, on voit bien que c'est un homme qui ne sait pas faire des deals, qui ne sait pas faire de politique, et qui ne sait surtout pas faire de compromis, y compris avec des gens qu'il sait peut-être très corrompus, mais avec lesquels il faut qu'il deal pour pouvoir faire avancer un certain nombre de réformes, ce qu'il n'a pas fait depuis 4 ans.
En tout cas, il s'est empressé, il y a quelques jours, de suspendre le président de la Cour suprême, ce qui veut dire, en cas de litige sur les résultats de l'élection présidentielle, là, l'instance d'arbitrage est décapitée.
Oui, mais la grosse problématique, c'est le timing. Hein, quand on fait ce genre de choses, le président Bouhari ainsi que les services de sécurité ont des dossiers sur la plupart des hommes politiques de haut niveau ou la plupart des juges de haut niveau. Ce qui pose question, c'est de sortir ce dossier-là quelques jours avant les élections. Ce qui a d'ailleurs posé, ce qui a entraîné notamment des communiqués de l'Union européenne et d'un certain nombre d'organismes étrangers.
Merci Benjamin Auger d'avoir été avec nous depuis Doha. Quittons la politique politicienne. Laurent Bossard, je rappelle que vous dirigez le club du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest à l'OCDE. Pour comprendre, grâce à vous, comment et pourquoi le pétrole, donc le Nigeria est le premier exportateur de pétrole africain, pourquoi cette industrie pétrolière nigériane semble incapable de générer ou de dynamiser l'économie nationale ?
D'abord parce que, sans doute, la réponse a été apportée par mon prédécesseur, du fait essentiellement des phénomènes de corruption. Mais moi, je dirais, je répondrai pas indirectement à votre question en disant que le problème majeur du Nigeria, c'est de ne pas, parier sur ses vraies richesses. Et sa vraie richesse, ce n'est pas le pétrole. Le pétrole, c'est créer une croissance économique absolument chaotique qui dépend par définition des marchés internationaux. Et le président Bouhari, par exemple, et d'autres avant lui, ont dit qu'ils allaient s'éloigner de cette économie exclusivement centrée sur les hydrocarbures pour valoriser une économie qui doit être valorisée, qui est la seule vraie richesse du Nigeria et qui consiste, au fond, à se tourner vers son marché domestique et vers le marché régional. Hein, c'est un marché, certes, de gens très pauvres, mais nourrir, habiller et loger 200 millions de personnes, c'est un vrai marché et c'est là-dessus que le Nigeria devrait parier.
Mais cette diversification n'a pas été faite et le pétrole reste les premières recettes budgétaires. Hein, je crois 70% des recettes budgétaires sont liées au pétrole.
Oui, et c'est le drame de ce pays. Et effectivement, vous avez raison. En réalité, le pétrole, dans les beaux jours, représente le pétrole et le gaz représente à peu près un tiers du PIB du Nigeria et 90% des recettes du gouvernement. Mais on oublie que il représente finalement au fond peu d'emplois, que ceux qui représentent la majorité de l'emploi, c'est ce qu'on appelle l'économie alimentaire. Hein. C'est les deux tiers de l'emploi des gens qui travaillent dans ce pays, travaillent dans l'économie alimentaire au sens large, c'est-à-dire de la semence à l'assiette, hein, comme on dit, y compris l'agriculture, mais pas seulement l'agriculture. Et ce secteur souffre depuis des décennies d'un sous-investissement absolument déplorable. C'est-à-dire que la FAO nous explique, par exemple, que l'agriculture, le taux de croissance du PIB agricole dans ce pays est de l'ordre de 1% par an depuis 20 ans, ce qui est absolument désastreux. Le Nigeria est le deuxième, ou le premier, je crois, le deuxième importateur de riz du monde. Alors qu'il y a des potentiels absolument fabuleux, le Nigeria pourrait très largement nourrir sa population et nourrir une grande partie de la population des pays voisins. Donc il y a fondamentalement un biais dans les choix de priorités économiques, et ce, pas seulement sous Buhari, mais sous tous ses prédécesseurs.
Parce qu'encore une fois, c'est le pétrole qui alimente de la façon la plus commode, en quelque sorte, une manne qu'un certain nombre de gens peuvent se partager. Il faut d'ailleurs noter que Total, le français Total, vient d'annoncer la création de la plus grande plateforme flottante, je crois, à 150 km des côtes du Nigeria, donc dans une société où le Nigeria est, enfin la société nigériane est aussi partie prenante. Donc ça reste manifestement la vitrine de l'économie nigériane.
La vitrine et la machine à cash. Le problème, c'est que ce cash repart essentiellement vers l'extérieur. À Londres et ailleurs, et qu'il n'est pas réinvesti, utilisé comme levier de développement endogène, alors qu'il pourrait l'être, et que de ce fait on se trouve non pas face à un géant. Moi, j'ai tendance toujours à rappeler que le Nigeria, c'est un géant démographique, ce n'est en aucun cas un géant économique. C'est un édifice d'une extrême fragilité, où les deux tiers, que vous l'avez dit tout à l'heure, les deux tiers de la population vivent dans la plus extrême pauvreté. C'est certes un gros PIB, mais c'est le PIB qui se contente, je dirais, d'additionner des centaines de millions de pauvres. C'est ça, le Nigeria. C'est certes un PIB légèrement supérieur à celui de l'Afrique du Sud, mais avec un PIB par tête qui est trois fois inférieur à celui de l'Afrique du Sud. Le PIB par tête au Nigeria n'est pas supérieur à celui de la Côte d'Ivoire, etc., etc. Donc on a tendance à projeter cette image de puissance économique. C'est en réalité un édifice économique extrêmement fragile.
Marc-Antoine Pérouse de Monclos, je retourne vers vous, parce que non seulement c'est un édifice fragile, comme vient de le dire Laurent Bassa, mais c'est aussi un immense pays où il y a des zones d'insécurité nombreuses, à commencer bien sûr par le nord-est, enfin tout autour du lac Tchad, avec donc les voisins. Et là, depuis 2015, on a vu Boko Haram, donc un djihadisme africain, qui s'est véritablement installé sur ses frontières.
Oui, c'était le grand argument de campagne électorale de Buhari pour se faire élire en 2015, sur sa capacité en tant qu'ancien militaire à faire, écraser le groupe. Et d'ailleurs, un peu emporté par son élan, il a eu des paroles malheureuses qui lui collent à la peau. En décembre 2015, il a assuré que le groupe était tactiquement défait. Le groupe a reculé depuis 2014, c'est vrai, il est plutôt dans des franges frontalières, des zones difficiles d'accès, une forêt d'épineux autour de Sambisa et des monts Mandara au Cameroun, les marécages du lac Tchad, mais le groupe n'est absolument pas défait. Alors souvent, on le représente dans les médias comme un groupe qui commet des attentats suicides contre des civils, mais c'est un groupe qui, quoi qu'il en soit, des allégeances à Daesh, a toujours ciblé les militaires depuis très longtemps. Et rien que l'année dernière, il a tué entre 800 et 900 militaires nigérians. C'est pas rien. Donc là-dessus, Buhari, en fait, a échoué, hein, par rapport à ce pourquoi il avait été élu en 2015. Ce que je trouve intéressant, d'ailleurs, c'est que l'opposition, bien sûr, le critique pour son incapacité à mettre un terme à l'insurrection de Boko Haram, mais l'essentiel de la critique est plutôt sur les conflits qui, on le présente souvent dans les médias comme opposant des éleveurs à des agriculteurs. Les éleveurs seraient plutôt musulmans, voire djihadistes, selon certains, et les agriculteurs seraient chrétiens, alors qu'en fait, Il y a beaucoup de conflits entre éleveurs, beaucoup de conflits entre agriculteurs. Et en fait, l'essentiel du bétail est entre les mains des agriculteurs, ne l'oublions pas, des cultivateurs. Mais
et ça, c'est plutôt vraiment... dans les États du milieu. Hein. Il faut pas oublier, le Nigeria étant une fédération, c'est quand même plutôt dans la Middle Belt.
C'est beaucoup dans la Middle Belt, mais pas seulement. Et bon, on a une base de données à l'IFRA, à l'université d'Ibadan, qui montre que l'essentiel, en tout cas sur le plan létal de ces violences, finalement, se produisent beaucoup dans le sud, y compris dans des États comme le Cross River, hein, qui apparaissent peu finalement dans la carte de ces violences. Mm. C'est assez impressionnant. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que l'opposition, au lieu de critiquer Buhari, qui est lui-même un peul, mais un peul des villes, originaire du nord-ouest du Nigeria, au lieu de le critiquer sur l'affaire de Boko Haram, on a concentré les attaques en l'accusant de collusion avec les peuls, avec les éleveurs peuls. Et à mon avis, il y a une explication à ça, c'est que si vous voulez, le Nigeria peut continuer à vivre avec Boko Haram, qui touche essentiellement 3 États sur les 36 de la fédération, dans des zones où il y a peu d'intérêt économique. En revanche, les conflits du bétail, le marché de la viande, ça touche tous les électeurs, parce que voilà, ce bétail voyage sur pied, il arrive dans les grands abattoirs des villes du sud, sur la côte, comme Port Harcourt, Lagos, etc. C'est vraiment là un enjeu important pour beaucoup de gens, et donc je pense que l'opposition... critique plus Buhari sur les conflits du bétail relativement à Boko Haram, parce que ça touche là à une corde finalement électorale plus importante, plus diluée, plus dispersée que finalement sur la question de Boko Haram en tant que telle.
Mais pour l'opinion publique en Europe, et en particulier pour la France, qui, il faut le rappeler, est militairement engagée au Niger en particulier, il est évident que Boko Haram, l'enlèvement de ses petites filles, si j'ai bien compris aussi les exactions de l'armée nigériane qui, sous prétexte de se battre contre Boko Haram, ne s'en livre pas moins à des viols, à des enlèvements et à des meurtres à échelle presque équivalente. Jusqu'où est-ce que Boko Haram fait ou non partie de ce qui est volontiers décrit dans nos médias comme un espèce d'arc de crise terroriste islamiste qui serait presque homogène, disons en partant de l'Afghanistan pour aller jusqu'à la Mauritanie.
Oui. Je pense que les dynamiques locales sont beaucoup plus importantes que les références à un modèle djihadiste global qui serait celui de Daesh ou d'Al-Qaïda pour comprendre l'insurrection de Boko Haram, mais surtout sa résilience, hein, parce que ça fait quand même depuis 2009 que le groupe combat et que l'armée n'arrive pas à en venir à bout. Il y a eu beaucoup d'espoir sur la capacité de Buhari donc à en finir avec cette histoire, et c'est intéressant de voir qu'en réalité, s'il y a eu quelques succès, c'est surtout parce que Buhari a apporté de l'espoir aux populations civiles du Borno, qui se sentaient délaissées par son prédécesseur, qui était un président chrétien du Sud, et que c'est cet espoir-là qui a fait bouger les lignes. En revanche, la performance de l'armée ne s'est pas améliorée. C'est-à-dire que l'armée a continué de commettre des exactions, de racketter. On continue de voir circuler des vidéos où il y a des soldats qui se plaignent de ne pas recevoir leur ration alimentaire, de ne pas être équipés en armes, parce qu'il y a beaucoup de corruption dans l'armée. Et le grand paradoxe, c'est que c'est justement parce que Buhari était un militaire qu'il n'a pas voulu ternir l'image de l'armée et que finalement, il ne l'a pas réformée. Et donc, si Boko Haram a reculé, c'est pas parce que la performance de l'armée se serait améliorée. Encore une fois, elle a perdu 900 hommes rien que l'année dernière face au groupe. Mais c'est plutôt parce que la population du Borno s'est mise effectivement à avoir davantage confiance dans l'État et dans un gouvernement fédéral incarné par Buhari. C'est ça qui a fait bouger les lignes. L'armée, elle, reste un gros problème, non seulement dans ses exactions, mais aussi dans son incapacité à protéger les civils, que ce soit dans l'État d'Adamawa, où le groupe vient de s'emparer de quelques localités qu'il avait pourtant perdues depuis quelques années. C'est l'État d'où est originaire Atiku Abubakar, hein, rappelons-le aussi. Que ce soit autour de l'État Diobé avec l'enlèvement des collégiennes de Tapchi, que ce soit encore dans le Borno, on voit que l'armée aussi n'arrive pas à protéger les civils. Et les retours qu'on peut avoir de la coalition antiterroriste qui groupe en fait le grand géant anglophone qu'est le Nigeria, mais aussi 3 pays francophones avec qui la France est liée par des accords de défense, hein, le Niger, le Cameroun et le Tchad, le retour qu'on a, c'est qu'en fait, l'armée nigériane ne tient pas du tout le Borno rural. Et donc le groupe, c'est pas parce qu'il est lié à Daesh qu'il est résilient, c'est parce qu'en face, il n'y a rien. Il n'y a rien. C'est-à-dire dans le Borno rural, quand vous avez l'armée nigérienne qui va jusqu'à Damasek, du côté nigérian, que ce sont les Camerounais ou les Tchadiens qui vont jusqu'à Dikwa, qu'ils appellent leurs confrères nigérians pour prendre la relève, les Nigérians ne viennent pas. Donc il y a un vrai problème militaire qui n'a absolument pas été résolu avec Bouhari, quoi qu'il en soit, de son passé lui-même de militaire.
Et quelle est la réalité des liens avec Daesh, entre Boko Haram et Daesh ?
Des liens de relations publiques. Ça marche très très bien, notamment dans les médias, c'est de la com, une guerre de com. Donc effectivement, le groupe se rend très important en prêtant, il y a une faction du groupe qui a prêté allégeance à Daesh, et en faisant référence à un djihad global, vous voyez, qui menacerait l'ensemble du Sahel et qui remonterait même, pourquoi pas, jusqu'en Afghanistan, jusqu'au Pakistan. C'est un moyen aussi pour le groupe de se rendre plus important qu'il ne l'est réellement. Donc, une communication qui, en revanche, sur le plan opérationnel, on ne voit pas d'échange de combattants, on ne voit pas d'échange financier, d'échange d'armes. Non, ceci n'existe pas. Rappelons d'ailleurs qu'aucun des groupes djihadistes de l'Afrique subsaharienne n'a jamais commis d'attentats en Europe ou en Amérique, hein, contrairement à Daesh ou Al-Qaïda qui en ont revendiqué. Donc, c'est quand même des situations très différentes. Et là, vraiment, les dynamiques locales, les modes de recrutement sont très locaux. Ça passe pas du tout par Internet, par bien d'autres procédures, avec des griefs qui tiennent, entre autres, effectivement, aux exactions des armées de la coalition antiterroriste, notamment essentiellement en fait le Nigérien et le Cameroun aussi. Hein, dans le nord du Cameroun, on a un problème, y compris avec la levée de milices qui profitent de la situation pour régler leurs comptes et qu'il sera extrêmement difficile de démobiliser. Donc la démobilisation, c'est pas seulement un problème de déradicalisation, pour employer les termes à la mode concernant Boko Haram, c'est aussi qu'est-ce qu'on va faire de tous ces miliciens qui sont censés combattre aux côtés des militaires.
Laurent Fourchard, merci d'être avec nous en duplex depuis France Bleu Gironde à Bordeaux. Vous êtes directeur de recherche au Centre de Recherche Internationale de Sciences Po. Jusqu'à quel point est-ce que, dans cet immense pays, les rivalités ethniques et religieuses pèsent sur les rapports de force politiques ?
Alors ça pèse, ça ne pèse pas. Ça ne pèse pas parce que l'actuel fonctionnement de la répartition des partis, enfin il y a un système bipartisan, en gros, il y a deux grands partis politiques nationaux qui sont transethniques et transreligieux. Donc un parti qui est héritier de deux partis régionaux, qui étaient un parti régional du Nord et un parti régional du Sud-Ouest, qui est l'actuel parti au pouvoir, EPC. Et puis l'ancien parti au pouvoir, qui était entre 99 et 2015 au pouvoir, qui s'appelle le PDP, qui était également un parti national, enfin qui avait une implantation dans tous les États. Et donc, il faut déjà bien comprendre que c'est un système bipartisan et que pourquoi on ne présente que ces deux candidats ? Parce que ces deux candidats ont ces appareils de parti derrière eux et que seuls ces deux peuvent l'emporter concrètement à l'échelle du Nigeria.
Mais comme on nous le rappelait en début d'émission, ce sont deux musulmans issus donc des États du Nord. L'un
certes,
et l'autre.
Mais c'est ça, mais l'un et l'autre ont aussi fait appel à des vice-présidents du Sud, et donc il y a cet équilibre qui se joue aussi à l'intérieur des partis. En général, cette question n'est pas forcément centrale. Maintenant, effectivement, il peut y avoir une ethnicisation du politique à certains moments et dans certains cas. Peut-être qu'on peut penser notamment au conflit qu'a évoqué déjà Marc-Antoine, le conflit entre les éleveurs et les agriculteurs, effectivement, dans cette région de la Middle Belt, donc la partie centrale du Nigeria, où les affrontements entre éleveurs et agriculteurs, qui est lié essentiellement à un conflit autour des usages du sol, lié à une croissance démographique du Nigeria. Donc,
et au bouleversement climatique, parce qu'il y a une sécheresse.
Au bouleversement climatique lié à une partie de la désertification et d'une descente des troupeaux vers le sud. Au fait que effectivement Boko Haram a tenu pendant longtemps les États du Nord-Est, donc on transformait les routes de transhumance et donc accru la pression sur les routes de transhumance des autres États. Donc il y a ce contexte-là est important, mais ce qui s'est passé depuis fin 2017-2018, c'est une exacerbation de ces conflits entre agriculteurs et éleveurs, essentiellement liés au fait que certains États et gouverneurs des États de la Middle Belt ont pris ont fait voter des lois anti-pâturage, anti-transhumance dans leurs États, interdisant donc de facto l'entrée des troupeaux dans ces États. Il s'agit des États de la Benue, Kiti-Taraba, donc au centre du pays. Et donc ça a vraiment enflammé en réalité les conflits, parce que ce qui était un processus dans la longue durée en fait, de troupeaux qui effectivement descendent dans le sud pour alimenter les villes du sud, tout d'un coup ne pouvaient plus passer avec un armement de villageois par les gouverneurs, et donc avec une augmentation incroyable du nombre de morts au début de 2018 liée vraiment à cette tendance. Et donc en 2018, c'est aussi rejoué cette idée que les pasteurs Peul Fulani, armés de Kalachnikov, s'opposaient à des agriculteurs chrétiens, et donc il y a eu une ethnicisation effectivement de la question. Et donc peut-être que cette question peut jouer dans ces États là au moment de l'élection. Ces États qui sont plutôt de la majorité présidentielle actuelle peuvent peut-être basculer dans l'opposition pour cette raison-là. Mais enfin, j'en sais rien, c'est une hypothèse.
Élodie, à part, vous êtes directrice scientifique à l'Institut français en Afrique. Vous êtes basée près de Lagos, à Ibadan. Vous êtes, heureusement pour nous, de passage à Paris. La liaison téléphonique est en principe plus facile. Je crois que vous vivez donc dans ce pays depuis 7 ans maintenant. Qu'est-ce qui vous frappe dans ce moment qui est toujours privilégié pour essayer de comprendre ce qui se passe dans un pays, c'est-à-dire une élection à l'échelle nationale? Est-ce que malgré le fait que les deux protagonistes principaux appartiennent à la même tranche d'âge, est-ce que selon vous il y a un renouvellement dans la vie politique, mais au-delà, dans la manière dont la société nigériane se considère elle-même?
Alors effectivement, au niveau fédéral, au niveau de l'élection du président, il n'y a pas vraiment de renouvellement générationnel. Hein. On est face à deux vieux loups de la politique. En revanche, au niveau local, il y a des choses intéressantes qui se passent. Moi, je l'observe depuis Ibadan, donc dans le sud-ouest, et donc c'est évidemment les situations sont très très différentes d'un endroit à un autre. Hein. Donc ça ne vaut pas pour l'ensemble du pays, mais c'est vrai qu'on voit des évolutions. On voit notamment certains parrains de la politique qui ont disparu et donc qui laissent un petit peu le champ libre.
Qu'est-ce que vous appelez, pardon, des parrains de la politique?
Les parrains,
c'était un système établi, je crois, avec un mot qui désigne ce système.
Oui, bah c'est donc les Godfathers, hein, en anglais, donc de Godfatherism, c'est-à-dire l'action en sous-main d'hommes extrêmement puissants et riches qui font et défend les gouverneurs au niveau local. Ça a été le cas pendant des dizaines d'années. Et dans le sud-ouest, c'est encore le cas, notamment dans l'état de Lagos, dans l'état d'Oyo où se trouve l'Institut français de recherche. On voit les choses évoluer quand même pas mal depuis certaines années. Et là, aujourd'hui, sont candidats des jeunes. Des jeunes gens, plutôt des technocrates, plutôt des jeunes gens très très éduqués, qui ont eu des formations à l'international et qui représentent un modèle ultralibéral, pas très original, hein, mais libéré de ce patronage et de ce système de godfatherism. Après, on verra hein, comment ça va se passer concrètement, mais voilà, sur des situations très très locales comme ça, on voit un petit peu de renouvellement générationnel. Malheureusement, ça se voit pas sur l'ensemble du pays.
Quel est le poids des églises évangéliques dans cet immense pays d'Afrique de l'Ouest?
Alors, évidemment, les églises évangéliques au Nigeria sont très importantes. Elles ont un poids très important sur la société, sur les manières de penser, sur l'évolution aussi des mœurs. Mais en ce qui concerne la politique, Et puis même l'analyse du Nigeria en général, il faut, je pense, être prudent avec la grille de lecture religieuse. C'est une grille de lecture qui est quand même adoptée de manière assez systématique pour expliquer les problèmes du Nigeria. Et qui
aussi parfois, bien côté chrétien que du côté islam.
Bien sûr, et surtout sur l'opposition hein, entre chrétiens et musulmans. Tout n'est pas qu'opposition religieuse. Hein. Évidemment, mon collègue Laurent Fourchon en a parlé très bien tout de suite avec la question des conflits entre agriculteurs et éleveurs. C'est avant tout une question d'accès aux ressources et de pression sur le sol. La question d'accès au foncier, dans un contexte d'accroissement démographique très important, c'est le vrai problème sur la Middle Belt. C'est pas le fait que les agriculteurs soient chrétiens et les éleveurs musulmans. Mm-hmm. Et donc c'est vrai pour beaucoup de questions, et c'est vrai aussi pour Boko Haram dont vous parliez avec Marc-Antoine Perrouse de Monclos un petit peu avant. C'est un phénomène religieux, mais c'est d'abord un phénomène social et politique. Donc il faut faire très attention, parce que la visibilité notamment hein, des acteurs religieux et des dynamiques religieuses au Nigeria est très importante, que ce soit les églises pentecôtistes gigantesques présentes dans le sud-ouest et les mouvements islamiques au nord, qui sont finalement très mobilisateurs et très importants, ont tendance à cacher une réalité beaucoup plus complexe, beaucoup plus diverse. Ce serait dommage de ne pas expliquer.
Ce qui paraît aussi extraordinairement diversifié, c'est la condition des femmes. Parce que dans la capitale économique, donc Lagos, là on voit, il y a une classe moyenne extraordinairement active, avec d'ailleurs beaucoup de femmes d'affaires. Je crois que l'une des femmes les plus riches d'Afrique est une femme qui a créé des entreprises à Lagos.
Effectivement, le rôle des femmes est très important et très différent. Mais là encore, à Lagos, c'est très visible. Vous avez des success stories très impressionnantes de femmes qui ont réussi dans le monde des affaires. En revanche, le monde de la politique se féminise peu, et très doucement, et très localement aussi. Et puis il y a aussi un problème, c'est la visibilité, c'est-à-dire que Lagos attire tous les regards. C'est là aussi que sont basées toutes les agences de presse. Donc en fait, s'il y a aussi beaucoup d'articles sur Lagos, c'est parce que les journalistes, notamment français, sont à Lagos et vont rarement ailleurs. Mais il se passe des choses dans le reste du pays. Il y a des mobilisations très importantes, y compris de femmes, dans le nord, dans le nord-est, face à Boko Haram. Il y a eu des mobilisations féminines importantes. À Maïdougouri, il y avait des femmes dans la rue. Personne n'a couvert ce genre de mobilisation-là. Quand il y a eu l'enlèvement des Chibok Girls, c'est les femmes qui étaient devant aussi. Hein. C'était les mères, mais aussi les femmes de la société civile. Il y a des mobilisations anciennes, hein. Il y a des chercheurs d'ailleurs qui travaillent là-dessus et qui montrent que les mobilisations féminines au Nigeria sont anciennes. Après, sur leur visibilité, évidemment, c'est très inégal.
Merci Élodie, à part avoir été avec nous par téléphone. Lagos, donc, c'est cette immense ville où, paraît-il, il est extrêmement difficile de bouger. Il est toujours difficile, semble-t-il, aussi au Nigeria, de comptabiliser véritablement la population, mais ce serait donc une ville qui compterait entre 12 et 20 millions d'habitants. Éric Scholl, bonjour, vous dirigez Courrier International, qui consacre dans le numéro de cette semaine plusieurs papiers à ce que vous appelez Planète Nigeria. Et Planète Nigeria, c'est en fait un centre d'ébullition artistique, créative, tout à fait étonnant, et qui irradie non seulement en Afrique, mais même au-delà.
Oui, et comme l'écrit le magazine américain W, les Nigérians le savent depuis un moment, leurs sons, leurs images et leurs styles se sont infiltrés dans la culture mondiale. Et c'est le cas évidemment de la romancière Chimamanda Ngozi Adichie, l'auteur d'Americana. Pour cette écrivaine, raconte le mensuel de Chicago, le tournant est peut-être venu en 2013 quand la chanteuse américaine Beyoncé a utilisé dans une de ses chansons un extrait d'un de ses essais sur le conditionnement social des filles. La romancière nigériane est devenue un symbole du féminisme et du métissage des cultures, explique le journaliste de W. Ce soft power du Nigeria touche aujourd'hui tous les domaines. Il est relayé par la communauté installée à Londres ou aux États-Unis, au point, écrit cette revue de Chicago, que de nouveaux talents ne cessent d'apparaître, ils puisent leurs inspirations au Nigeria et bien sûr dans sa plus grande ville, Lagos, véritable locomotive créative. Alors dans la musique par exemple, après le chanteur Wizkid en 2017, eh bien c'est une autre star de l'afropop, Davido, qui a reçu en novembre dernier le trophée de l'artiste africain. Avec plus de 100 millions de vues sur YouTube, son clip vidéo est même devenu le plus vu sur cette plateforme pour un artiste nigérian, s'enthousiasme le journal de Lagos Pulse. Alors il y a la littérature, la musique, mais aussi évidemment le cinéma, ou plutôt Nollywood, comme on surnomme l'industrie du 7e art au Nigeria. Et l'une de ses représentantes les plus célèbres est l'actrice nigériane Geneviève Nagy, qui a 40 ans et a déjà joué dans 80 films. Et la comédienne vient de réaliser un coup de maître en produisant son premier film, Lion Heart, Cœur de Lion, ce long métrage qui raconte comment une femme prend la direction d'une entreprise dans une société sexiste. Eh bien, vient d'être achetée par Netflix pour un peu plus de 3 millions d'euros. C'est une première pour un film réalisé sur le continent africain. L'Afrique renferme le plus grand nombre d'histoires qui restent à découvrir et nous sommes déterminés à les raconter au monde entier à notre manière et avec notre voix, raconte elle-même Geneviève Nagy dans Vanguard, un quotidien de Lagos. Autant dire que loin des difficultés pourtant réelles dont on vient de l'entendre, de pauvreté, de terrorisme ou de corruption, eh bien le Nigeria est très présent sur cette scène culturelle mondiale.
Et cette forme d'influence existe bien au-delà du monde anglo-saxon, elle atteint jusqu'à la Chine.
Oui, et je vais vous prendre un exemple bien particulier, je vais revenir sur cette auteure, Chimamanda Ngozi Adichie, dont le livre « Cher Ijewele » ou « Un manifeste pour une éducation féministe » va sortir en avril en version chinoise. Cette publication va donner à son auteur un nouveau statut, décrypte le site Quartz Africa, celui de faire partie de ces rares écrivains africains dont la quasi-totalité de l'œuvre a été traduite en mandarin. Autant dire que Chimamanda Ngozi Adichie est devenue une icône littéraire en Chine. Son éditrice à Shanghai a confié à Quartz Africa que les raisons de son succès, je cite, en abordant des sujets d'actualité comme les inégalités de genre, la question des migrants ou le racisme, l'écrivaine nigériane aide les lecteurs à réfléchir aux grandes questions existentielles. En tout cas, cette percée des livres d'Adichie dans l'empire du milieu s'inscrit aussi, il faut le rappeler, dans le contexte de la présence croissante de la Chine en Afrique, nous rappelle le site d'information. Or, si la Chine n'a cessé au cours des dernières années de renforcer sa diplomatie culturelle en finançant des leçons de mandarin à travers toute l'Afrique, explique Quartz Africain, eh bien, il faut aussi reconnaître que la plupart des lecteurs chinois n'ont, eux, pas la moindre idée de ce qu'est l'Afrique ou la littérature africaine. Un oubli que Chimamanda Ngozi Adichie s'emploie aujourd'hui à combler.
France Culture, Affaires étrangères.
Christine Ockrent.
Laurent Fourchard, nous vous rejoignons à Bordeaux. Je rappelle que vous êtes directeur de recherche au Centre de recherche internationale de Sciences Po. La dimension la plus spectaculaire du Nigeria est sans doute ce foisonnement culturel, en tout cas centré dans quelques grandes villes, à commencer par Lagos, en est la manifestation. C'est évidemment une démographie qui est à la fois un atout majeur et un défi essentiel. Il y aurait combien de Nigérians aujourd'hui ? Quel est le chiffre qui circule, même s'il est approximatif ?
Ah ouais, très approximatif, parce que le dernier recensement officiel date de 2006, et il y avait 140 millions de Nigérians qui étaient recensés à ce moment-là, donc on est entre 180 et 200 millions, c'est difficile à dire en fait. Hein. Le bureau fédéral des statistiques produit des chiffres, mais ils sont pas forcément fondés sur des sondages bien ou des échantillons bien réels ou bien formatés. Donc on a des chiffres ensuite qui circulent. Alors les chiffres sont aussi par ailleurs contestés parce que c'est une question politique majeure. Hein. Vous avez dit à propos de Lagos, on est entre 12 et 20 millions d'habitants recensés pour l'État de Lagos. En réalité, voilà, c'est les deux chiffres concurrents sont deux chiffres qui ont été produits par l'un par le gouvernement fédéral hein, en 2006. C'est 9,4 millions. Habitants donc à Lagos, alors que l'État de Lagos, qui était dans l'opposition alors, a établi son propre recensement et est arrivé à 18 millions, quoi. Essentiellement parce que c'est une question de ressources financières, quoi. Plus on a d'habitants dans son État et plus l'allocation fédérale est importante.
Il n'en demeure pas moins que le taux de fécondité se situe aux alentours de entre 5 et 6 enfants par femme.
Alors, l'indice synthétique de fécondité est très est variable en réalité. Hein. Et effectivement, il est entre 5 et 6, mais il est plutôt à 7 dans le nord du Nigeria, hein, proche en fait des indices synthétiques de fécondité qu'on trouve aussi au Niger, alors que dans le sud, il est de 4, quoi, 4 enfants par femme, ce qui donne une démographie très différente entre le nord et le sud, ce qui fait que la population du nord croît plus que le sud, ce qui fait que le nombre d'électeurs croît plus au nord qu'au sud et que la pauvreté aussi se massifie davantage au nord qu'au sud parce que les richesses sont davantage au sud qu'au nord. Quoi. Donc il y a toute cette dimension derrière la démographie qui est effectivement fondamentale.
Il faut d'ailleurs souligner que le candidat donc Aboubakar qui se présente contre le président sortant n'y a pas peu contribué puisqu'il est polygame et qu'il aurait enregistré quelques 25 enfants à l'état civil.
Ah, ça je connaissais pas ça, j'avais pas
oui,
cette
oui,
information précise.
Oui, j'ai lu ça dans Jeune Afrique. Excellente publication. Alors, autre dimension qui est quand même absolument frappante, c'est que près de la moitié de la population du Nigeria vit avec moins de 2 dollars par jour et que c'est donc véritablement, paradoxalement, le pays le plus pauvre du monde. En tout cas, celui où il y a le taux de pauvreté plus élevé encore qu'en Inde.
Oui, alors là aussi, c'est difficile de manier les chiffres. Effectivement, la pauvreté s'est certainement accrue ces dernières années, surtout depuis 2015, avec l'effondrement de la croissance économique, alors que dans les 15 années précédentes, en fait, la croissance économique avait peut-être permis de sortir une partie de la population de la pauvreté. Mais là encore, il est difficile de donner des chiffres. Hein. Donc, enfin, c'est pas pour les relativiser, hein, mais par exemple, un chiffre qui court tout le temps, c'est 76% de la population des villes du Nigeria vit dans les bidonvilles, alors qu'en réalité, il n'y a pas de définition de ce que c'est qu'un bidonville, il n'y a pas de définition non plus de ce que c'est que la pauvreté en stricto sensu, ce qui fait que ces chiffres sont toujours à manier avec précaution.
Mais il n'y aurait que la moitié de la population alphabétisée.
Là aussi, les divergences régionales sont considérables, hein, avec des taux d'alphabétisation dans le sud et dans l'état de Lagos à 80% et ouais, dans le Borno à 20%. Donc, si vous voulez, la différence est tellement fondamentale entre les États et qui est liée au système, enfin, un héritage colonial et post-colonial très fort, que là aussi, il faut être très prudent. Ce qui compte quand même, c'est que Buhari en fait s'inscrit dans, enfin, la politique de Buhari s'inscrit dans celle de ses prédécesseurs, hein, quand bien même il y avait une politique un peu délibérée de progrès social, en réalité il n'y a pas de politique sociale qui sont menées au Nigeria. Donc en termes de logement, il n'y a pas de logements sociaux qui sont fournis, alors qu'il y a une demande de logement, il y a des millions de logements qui sont en demande. Il n'y a pas de politique d'allocation, évidemment, chômage, il n'y a pas de politique d'allocation retraite, ni d'allocation familiale, encore moins. Enfin, rien de ce qu'on trouve, si vous voulez, ni en Afrique du Sud, ni au Maroc, ni au Kenya, ni même en Éthiopie, on ne le retrouve au Nigeria. Donc, si vous voulez, il n'y a pas de filet de sécurité qui sont tendus par le gouvernement fédéral nigérian, en dépit de la manne pétrolière qui s'est constituée depuis des décennies, quoi.
Et quelle est votre explication? Pourquoi cette absence d'État, en quelque sorte, c'est plutôt la tradition britannique? Même si vous citez le Kenya parmi les pays qui ont une telle infrastructure.
Alors, enfin, pour le Kenya, enfin, si on cite le Kenya, je pensais à des programmes de logements sociaux ciblés. Hein. Je veux pas dire que toutes ces politiques sociales sont menées dans tous ces États. Donc, dans le cas du Kenya, il y a des politiques de logement social qui sont menées à Nairobi, par exemple. Voilà. Mais dans le cas du Nigeria, effectivement, cette absence, ben, je pense que est liée à la manière dont l'État s'est construit. C'est pas qu'il n'y a pas d'État, c'est qu'il n'y a pas d'État social, plutôt, au Nigeria. Et c'est lié à un héritage colonial assez fort, suivi de dictatures militaires, et depuis le retour à un régime civil en 99, cette question sociale ne s'est jamais posée en réalité. On pose des questions autour de la corruption, autour de la croissance économique, autour de la sécurité, mais la question sociale ne se pose jamais. C'est quand même incroyable, quoi.
Laurent Bossard, directeur du club du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest à l'OCDE, donc vous avez une vision sur l'ensemble des pays de la région. Ce qui est frappant dans le cas du Nigeria, d'après ce que l'on comprend depuis le début de cette émission, c'est qu'il y a à nouveau un regain de croissance économique, mais qui n'est jamais suffisant pour répondre aux défis démographiques, en quelque sorte.
Non, c'est ce que c'est sur quoi je voudrais insister fortement. Vous savez, il y a l'ancien président Obasanjo du Nigeria qui a dit que la croissance démographique était un représenté pour son pays des perspectives éventuelles de catastrophes politiques majeures. Et il a raison. Ce pays, très probablement, qui a donc 200 millions à peu près d'habitants aujourd'hui, en aura très probablement 100 millions de plus dans 15 ans, disons en 2035. On voit que depuis 5 ans, la croissance économique est très largement inférieure à la croissance de la population. Et on voit aussi que le modèle économique de ce pays est exclusivement centré sur l'exportation de matières premières, c'est-à-dire exclusivement dépendant de marchés mondiaux. Ça veut dire
et
quoi ?
Et donc
de cours erratiques. Ouais. Donc ça veut dire que, si vous voulez, la seule option théorique soutenable pour ce pays, c'est d'une part, dans les 15 prochaines années, de faire baisser de façon drastique la croissance démocratique, la fécondité en particulier, et d'autre part, de trouver un modèle de croissance stable, c'est-à-dire ne dépendons pas du marché international. C'est-à-dire, et la seule option pour ça, c'est de développer une économie qui va répondre aux besoins du marché intérieur et du marché régional.
Alors le marché régional, ça évidemment quand on regarde la carte, on voit que le Nigeria est évidemment anglophone, est au centre donc de cette Afrique francophone, mais qui semble en dépendre non seulement sur le plan économique, mais aussi sur le plan migratoire. Il y a beaucoup de migrations dont on parle trop peu et qui se font intra-africaines et intra-sahéliennes.
Oui, alors, il y a plusieurs choses. La première chose, c'est que une ville comme Lagos, par exemple, donc je peux vous dire que l'agglomération de Lagos, c'est 12 millions d'habitants, allez voir sur africapolis.org, l'agglomération de Lagos, c'est 12 millions d'habitants en 2015. Bien, donc il y a deux phénomènes. La première chose, c'est que une ville comme Lagos, par exemple, polarise l'économie bien au-delà des frontières. Le maïs qui est produit dans la région de Sikasso au Mali est en grande partie acheminé vers le marché de Lagos. Donc on a un marché tellement important que ça polarise bien au-delà des frontières. Tous les pays qui sont immédiatement frontaliers du Nigeria dépendent totalement de l'économie du géant démographique qu'est le Nigeria, l'alimentent et s'alimentent à leur tour de cette économie. Bien entendu, mais vous savez, c'est pas seulement le Nigeria. Je dirais qu'il faut avoir une vision réellement régionale. Si vous imaginez-vous une carte de l'Afrique de l'Ouest. De Yaoundé à Abidjan, sur 100 kilomètres, vous avez 80% du PIB, de la totalité, etc. D'accord? Et le cœur.
Donc, toujours au sud.
Voilà. Et le cœur du cœur de ce cœur de l'économie régionale, c'est au Nigeria. Donc, et ce cœur-là, battant, évidemment, attire des gens de l'intérieur des pays, mais également des gens des pays sahéliens.
Voilà. Qui sont attirés vers les côtes.
Qui sont bien entendu attirés vers les côtes. Alors, encore une fois, dans les espaces côtiers, on a probablement des PIB par tête qui sont difficiles à calculer parce que c'est pas au niveau des États, mais qui sont de 5 ou 6 000 dollars par personne. Et au Niger, on est à 600. Donc, effectivement, il y a un effet d'attraction naturelle et qui génère des flux importants de population. Et ces flux importants de population vont se poursuivre du fait de la croissance forte de la démographie, non seulement dans le nord du Nigeria, mais également dans des pays comme le Niger. Je rappelle que le Niger est et sera encore pour un certain temps le record du monde et de l'histoire de la croissance démographique.
Mais d'ailleurs, pourquoi ? Pour quelles raisons ?
Alors pourquoi ? Alors d'abord, j'insiste, ça a été dit tout à l'heure. Je crois qu'il y a un moment où il faudra arrêter de penser en termes de pays. si vous voulez. Il y a un bassin de population qui est le bassin Hausa, qui couvre le nord du Nigeria et le sud du Niger, dans lequel les comportements de fécondité, les comportements sociaux, le nombre d'enfants par femme en âge de procréer sont les mêmes. Donc ça veut dire que il faut agir en termes de politique de population, il faut agir sur ces bassins, je dirais socio-économiques, plus que simplement agir au niveau national.
Mais est-ce qu'il y a une telle action ou il n'y en a en fait aucune?
Je ne pense pas. Je suis même convaincu que vous savez, on parle souvent du dividende démographique, mais on oublie de dire que le dividende c'est quelque chose qu'on touche une fois qu'on a investi. Et il y a très peu, voire pas, d'investissement dans les politiques de population, ni au nord du Nigeria, ni au Niger.
Marc-Antoine Pérouse de Monclos, nous approchons vers la fin de cette émission. Vous êtes d'accord avec cette idée? Laurent Bossard citait un président nigérian qui a quitté le pouvoir il y a quelques années, Obasanjo, qui disait donc, en fait, la démographie est une bombe à retardement. Est-ce que c'est véritablement l'enjeu central et qui n'est en fait pas abordé dans cette élection qui se joue aujourd'hui?
Oui, c'est pas un enjeu de campagne électorale, clairement. Maintenant, je me méfie un peu des approches malthusiennes, simplistes, du type « il y a trop de population en Afrique, c'est ce qui explique la mauvaise gouvernance, les conflits, etc. » On voit que les courbes sont inversées. Il y avait beaucoup plus de conflits, beaucoup plus meurtriers il y a encore 30-40 ans en Afrique. Et plus il y a de population, moins il y a de conflits. Il y en a toujours. Ils sont toujours meurtriers, mais moins qu'avant. Donc, bon, je crois qu'il faut un peu déconstruire ces représentations malthusiennes simplistes. Maintenant, sur les élections à venir, effectivement, ces questions de la population, de la démographie, de la fécondité des femmes n'étaient pas du tout au premier plan. Ce qui intéressait les Nigérians, leurs préoccupations, elles sont d'abord économiques, leur porte-monnaie. Et puis, ce qui est intéressant, et c'est là toute la complexité de l'affaire, c'est que vous avez des rapports de force locaux qui vont déterminer le vote au niveau national. C'est une fédération, et on va voter non seulement pour le président, mais aussi pour les gouverneurs. Et ça, c'est très important. C'est-à-dire, vous avez, ça arrive souvent que dans un État, on va voter pour le président qui, là, sortant, serait APC, mais on va aussi voter peut-être pour un gouverneur PDP. Donc, il y a vraiment une complexité dans la lecture des enjeux de cette élection. Puis, évidemment, ce sur quoi il faudra être attentif, c'est deux choses. Le taux de participation électorale, parce que c'est pas des élections très, très enthousiasmantes, c'est le moins qu'on puisse dire. On craint beaucoup de fraude. Et puis, ça serait la surprise de voir l'opposant Atiku l'emporter. Mais à ce moment-là, la grande question, c'est est-ce que Buhari, ancien dictateur militaire, accepterait sa défaite électorale? Là aussi, beaucoup d'inconnus et de potentiel d'instabilité. À voir, à suivre donc.
À suivre donc, et merci à tous de nous avoir donné les clés pour le faire. Merci à vous, Marc-Antoine Pérouse de Monclos. Je rappelle que vous êtes directeur de recherche à l'Institut de recherche du développement. Vous venez de publier « Déconstruire la guerre ». Acteur discours controverse à la Maison des sciences de l'homme en novembre 2018. Merci à vous Laurent Bossard de l'OCDE. Vous avez dirigé la publication Un atlas du Sahara Sahel, géographie, économie, insécurité aux éditions de l'OCDE. Et il y a bien sûr les rapports de cette organisation internationale qui sont excellents et consultables sur Internet. Merci à vous Laurent Fourchat. Vous étiez en duplex depuis France Bleu Gironde. Vous avez publié en octobre dernier, trier, exclure et policer vies urbaines en Afrique du Sud et au Nigeria aux presses de Sciences Po. Je remercie aussi Benjamin Auger, chercheur associé à l'IFRI. Vos publications sont disponibles sur le site de l'IFRI qui a été classé, je le signale au passage, le deuxième meilleur think tank mondial. Donc bravo à nos amis de l'IFRI. Et bien sûr, je remercie Élodie Appard, directrice scientifique à l'Institut français à Ibadan, près de Lagos. Merci à Eric Scholl et à Courrier International pour ce dossier donc sur la vie culturelle au Nigeria. À la réalisation ce matin, Luc-Jean Reynaud, à la technique Nasser Moussaoui et Clément Daté. Meryl Moneghetti, assistée de Marion Barsac, à préparer cette émission, et dans quelques instants, comme chaque samedi, voici Hervé Gardette. Très bon week-end.